Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h49, dans quelques minutes, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, Le Traître et le Néant aux éditions Fayard. Vous pourrez bien sûr appeler et poser des questions. Et en attendant, Philippe Bilger.
Oui, c'est vrai,
et poser
des questions
Charbonneau.
Sur. Parce que, donc, on rappelle, hein, donc, c'est sur Emmanuel Macron. Alors, ils n'ont pas rencontré directement Emmanuel Macron ou les proches, en fait, à l'Élysée. Mais c'est l'entourage, le deuxième cercle et des gens qui se sont sentis trahis, bien sûr. Donc, c'est très cru. Donc, c'est une très bonne enquête, bien sûr. Vous pouvez leur poser des questions, hein, n'hésitez pas, sur ce qu'est la Macronie, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations dans ce livre autour du macronisme. C'est quoi le macronisme, quoi ? On verra d'ailleurs ça avec Philippe Bilger aussi, qui a été, je crois, passionné par ce livre, qui est avec nous aussi. On va réagir dans un instant donc, sur cette prime, cette indemnité inflation à 100 euros. Philippe Bilger, avant cela, vous vouliez... Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous vouliez revenir, vous, sur l'enquête administrative qui a été lancée à l'encontre de Charles Pratt. Charles Pratt, vous savez, qui a écrit en fait deux livres, donc le dernier tome là, qui vient de sortir, autour de la fraude sociale. Hein.
En effet, Patrick, je trouve tout à fait étonnant l'enquête administrative qui a été engagée contre Charles Pratt. Magistrat en activité qui a écrit, vous venez de le rappeler, deux livres qui ont eu beaucoup de succès et dont on peut dire qu'ils participent d'une utilité sociale et démocratique. C'est assez piquant de voir que le garde des Sceaux a ordonné une enquête pour violation de l'obligation de réserve alors que lui-même, comme avocat et comme ministre, n'en a jamais fait preuve. Mais ça, c'est un autre problème. Mais si vous le permettez, Patrick, je voudrais relier cette enquête administrative à quelque chose qui montre une évolution tout à fait regrettable du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui commence par le désir d'une moralisation de la vie publique en 2017 et qui finit aujourd'hui pratiquement par la dénonciation des actions judiciaires contre certains ministres qui ont peut-être transgressé les règles dans la gestion sanitaire. Il me paraît là une évolution tout à fait significative, comme si Emmanuel Macron avait décidé de quitter les principes du début du quinquennat pour aller dans une dénonciation, voire une lutte contre la magistrature qui lui déplaît, avec l'aide d'un garde des Sceaux qui est sur la même ligne.
Donc bon, c'est pas un hasard selon vous s'il y a cette enquête administrative aujourd'hui quoi.
Hein. Non.
Merci Philippe Bilger. Alors vous voulez réagir sur l'actualité, notamment peut-être les carburants. On a vu la stratégie en fait du gouvernement. Vous allez réagir au 0826 300 300 dans un instant. Juste pour replanter le décor avec vous, Arlette Chabot. Le gouvernement a un peu tergiversé, a attendu un petit peu avant de prendre une décision et finalement là. Bah, avec cette décision, Jean Castex, on a l'impression qu'il veut arroser un peu tout le monde, si je puis dire, quoi. Ou une grande partie de la population, quoi.
Ça fait 38 millions de Français. Donc,
ouais.
Et effectivement, quand on parle d'une indemnité inflation, on voit bien qu'on est au-delà, au fond, du simple chèque carburant, puisqu'avec l'annonce ce matin aussi pour les étudiants. Ouais. Ça ne veut pas dire que les étudiants, enfin, ils n'ont pas beaucoup, se déplacent en voiture. Ça me paraît assez évident. Et puis beaucoup vivent aussi en ville. Donc ça veut dire que c'est effectivement un chèque qui est beaucoup plus large. Ça fait un Français sur deux, hein, je veux dire, puisqu'on a chiffré 2 000 euros, c'est salaire médian. Il y en a autant qui gagnent plus qu'autant qui gagnent moins. Donc ça veut dire que c'est vraiment un chèque pour pouvoir d'achat pour les Français, avec un souci pour le gouvernement. Et pour le président de la République, c'est quand il fait son bilan, on voit bien qu'ils insistent beaucoup sur maintien ou progression du pouvoir d'achat depuis le début du quinquennat. Donc l'objectif politique, il est là, montrer que cette équipe, ce pouvoir, a préservé le pouvoir d'achat des Français. Donc les carburants, c'est un élément de la décision.
Ouais. Qui est au 0826 300 300?
C'est un autre Patrick.
Bonjour, c'est un autre Patrick. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Patrick. Ben écoutez, moi je suis retraité, donc je dirais que je suis retraité sur Fréjus, donc à partir
d'accord,
de là, j'ai moins le souci effectivement des actifs sur la région parisienne ou dans les campagnes. Mais j'ai écouté là depuis 3-4 jours, ils annonçaient quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de magnifique, tout ça. Et puis à la fin, c'est tout ça pour ça, quoi. Voilà, bon, ouais. Je vais les prendre, moi, les 200 euros. Je vais pas faire un refus de virement.
Oui, sans plus, sans vous et votre épouse, quoi.
Voilà, voilà. Ouais. Donc je vais les prendre. Mais je veux dire que, comme d'habitude, comme à chaque fois, et ça fait de la mousse, et ça parle. J'ai écouté un petit peu tous les ministres ce matin. Bon, ils sont contents. C'est la meilleure chose qui puisse arriver en France, nanana, comme tout ce qui est arrivé avec la Covid et chaque fois qu'ils annonçaient des événements, chaque fois. Voilà, c'est beaucoup trop de communication finalement. Et ouais. On est là, bon, on ne cesse plus prendre. Bon, ben on va les prendre, mais bon, voilà, c'est tout. Moi, je vais vous dire, j'ai toujours eu une idée, mais je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas à se mettre en place. Le cœur du problème, souvent, c'est l'essence. Je comprends qu'on a des millions d'étrangers qui passent, les Allemands, les Anglais qui passent. Pourquoi nous, les Français, nous n'aurions pas une carte spéciale française et quand on va à la pompe d'essence, on paye avec notre carte bleue plus notre carte à nous et on ne paye pas l'essence au prix réellement affiché. Que les étrangers qui passent en France, ben, qui payent l'essence au prix affiché et que nous, les Français, on bénéficie d'une remise parce qu'on est Français et qu'on a déjà des remises. Je ne comprends pas pourquoi. Ça ne s'est jamais fait, ça.
Ah oui.
Ça serait pas difficile.
Bon,
ça serait pas difficile.
Ouais. Ouais,
parce que ça... Mais jamais ça se fait, mais je peux vous garantir que ça nous allégerait bien, ça, parce que ça ferait du bien à tout le monde. Mais ça, bon, jamais ça se fait. Tout le monde paye le même prix, mais je comprends, hein, les millions d'étrangers.
Bon, ça dit, après, des étrangers qui... Bon, alors, vous allez pénaliser un peu...
Les Anglais, les Italiens,
vous allez pénaliser un peu les touristes, là, donc c'est difficile, non ?
Non. Non. Le touriste qui va en vacances, il n'est pas pénalisé. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le touriste.
Oui, c'est vrai. Vous
avez... Le touriste, il passe, ça sera toujours le même prix. C'est
ouais.
Nous qui s'y bénéficierons de quelque chose.
Oui, ouais, c'est vrai. Là, mais vous pensez plus aux routiers, alors, aussi, quoi, par exemple.
Ouais. Non, mais disons, non, aux routiers, puis même aux gens qui arrivent d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, hein, qui passent. Non, mais bon, aujourd'hui, j'ai bien compris qu'ils élargissaient la fourchette et qu'on passait de l'essence à tout. Je vais vous dire, moi, tant que retraité, je suis un peu content parce que moi, le mois dernier, paf, moins 20 euros. Alors j'ai écrit à ma caisse à Gérardco, j'attends la réponse, pourquoi m'enlever 20 euros ? Ben, je ne sais pas.
Et Patrick, euros, vous, beaucoup, hein. Sans indiscrétion, vous gagnez à peu près combien, en fait
un peu plus que les 2000, voilà, un peu plus que les 2000.
Ah, un peu plus que les 2000.
Ah, oui, bah non, mais vous êtes... Excusez-moi, je me suis trompé. C'est ma femme, toute seule, qui va toucher les 200 euros. Et moi, je touche un peu plus que les 2000, voilà.
Vous n'allez pas toucher, vous, l'indemnité. C'est votre femme.
Je me suis trompé. C'est ma femme, oui, parce qu'elle a une
carrière. Refaites les comptes, refaites les calculs, quand même, Patrick. Bon, on va
voir ça.
Allez, merci. Comme Patrick, vous voulez réagir sur l'actualité, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, cette fois-ci sur Emmanuel Macron. Vous avez des questions à poser, parce que nous allons interroger Gérard Davet
et Fabrice Lhomme.
Et Fabrice Lhomme, les deux journalistes en fait du Monde, qui ont publié
Le Traître et le Néant,
aux éditions Fayard. 600 pages.
600 pages, ouais,
600 pages. À chaque fois, évidemment,
et 110 personnes,
on se souvient en fait du livre autour de Sarko, autour de François Hollande. Chaque fois, ce sont des enquête très complète, quoi, avec quelques révélations. Restez avec nous.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h07, merci d'être avec nous. L'enquête, le nouveau livre politique de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Le Traître et le Néant, aux éditions Fayard.
Oui, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Alors, c'est un livre qui cerne Emmanuel Macron à travers des personnages qui ont contribué à le faire monter, des mentors, on va voir ça, Attali, Minc, et puis aussi les jeunes, entre guillemets, qui l'ont entouré également, Persson, et puis beaucoup d'autres, bien sûr. Et alors, pour certains qui se sentent un peu trahis, là, ça, ce sont les premiers, même s'ils n'avouent pas tout. Jacques Attali, quand vous le rencontrez, par exemple, il dit « Bon, bah, attendez, je ne voudrais pas non plus dire trop de mal, c'est ça. » Et surtout, à travers ça, bah, on voit que c'est une aventure individuel, évidemment, il n'y a pas un ancrage, comme le disent certains, je crois que c'est Gaspard Ganzer ou peut-être Attali, je ne sais plus qui le dit.
Ils le disent quasiment tous.
Il n'y a pas un ancrage en fait politique avec un corpus en fait fixé, mais c'est une aventure individuelle, c'est ça. On précise aussi pour les auditeurs, je ne sais pas qui veut commencer, Gérard Davet ou Fabrice Lhomme, Gérard peut-être, vous le premier, vous ne l'avez pas rencontré directement.
Oui, on n'a pas souhaité le rencontrer plus précisément.
Oui.
Pourquoi j'explique ça à vos auditeurs, c'est que tout simplement, il y a 5 ans, nous avions fait un livre qui s'appelait « Un président ne devrait pas dire ça », où nous avions passé beaucoup d'heures dans le bureau du président de la République, avec François Hollande en l'occurrence, au moins 61 entretiens, et nous avions vraiment compris ce qu'était le fonctionnement d'une présidence de la République et éventuellement le fonctionnement du cerveau d'un président. Là, on s'est dit, on va faire quelque chose de très différent. On va faire une enquête par cercle concentrique autour d'Emmanuel Macron, sans le rencontrer. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, si on avait demandé à le rencontrer, peut-être aurait-il accepté, c'est pas sûr. Mmh. Si on l'avait rencontré, ça aurait duré 1 heure, avec un conseiller en communication, avec une relecture de ses propos, et cela aurait abouti à ce que vos auditeurs détestent ici, c'est-à-dire à non parler vrai, quoi.
Oui, c'est vrai. D'autant que, Fabrice, il n'aime pas parler, et ça ressort, en fait, à plusieurs reprises aussi dans votre livre, à travers donc des personnalités qu'il connaît. Il n'aime pas la presse, quoi. Hein. Il n'aimait pas. Alors maintenant, il a peut-être un peu changé, quand même, quoi.
Alors, je sais pas s'il a vraiment changé, mais je pense que, de manière générale, au-delà de la presse, il a un problème avec ce qu'on appelle les contre-pouvoirs ou les corps intermédiaires, au choix. Parfois, ça se recoupe. Et la presse en fait partie. Il se méfie beaucoup des journalistes. Il s'en défie. Il y a un côté aussi un petit peu, je pense, dans son raisonnement, un petit peu démago, qui est de surfer sur le fait que les médias sont souvent présentés comme rejetés par l'opinion publique. Donc ça, c'est un petit peu le côté populiste mainstream, comme le disent certains de nos témoins.
Complètement. Ouais.
Exactement. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier aussi qu'il s'est construit politiquement en opposition absolue à François Hollande, qui pourtant lui a mis le pied à l'étrier. Mais il s'est dit, il faut faire l'inverse de ce qu'a fait François Hollande, notamment son rapport aux journalistes. Et c'est vrai que François Hollande adore la presse, il ne l'a jamais caché, et c'est toujours le cas. Certains lui ont reproché d'avoir abusé de ses relations avec les journalistes, peut-être. Mais dans tous les cas, Macron s'est dit, il faut faire le contraire. Donc moi, les journalistes, je vais les mettre à la porte. Il l'a fait d'ailleurs même symboliquement dès le départ en enlevant les accrédités du palais de l'Élysée. Ils sont ensuite revenus. Mais c'est vrai qu'il a une grande méfiance à l'égard de la presse et surtout il pense qu'il peut passer au-dessus pour s'adresser à ses citoyens dans un rapport direct au peuple.
Quelle est la personnalité la plus étonnante, à part le fait de vous rendre compte que finalement François Hollande a décidé de vous reparler après ce qui s'était passé, mais quel est le témoignage le plus étonnant pour vous ?
Oui, il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on a plus de 110 interlocuteurs dans cette enquête. Moi, personnellement, j'étais très intéressé par le témoignage de Mimi Marchand. Mimi Marchand est
très atypique.
Ceux qui ne la connaissent pas, c'est ce qu'on appelle on la surnomme la reine des paparazzi française. Elle détient vraiment tout l'empire, en fait, avec son agence de photos, d'images, qui revend des photos d'images de célébrités. Et en fait, cette dame, dont l'univers n'a strictement rien à voir.
Pour rappel, c'est elle, la couverture de match avec Madame Macron en maillot de bain.
Et cette dame, qui n'a strictement rien à voir avec l'univers des Macron, en fait, ils vont se rencontrer via Xavier Niel, le patron de Free. Parce que le couple Macron a un problème avec l'image d'Emmanuel Macron. À l'époque, il y a des rumeurs d'homosexualité qui circulent. Madame Macron n'apprécie pas, Monsieur Macron non plus. Et donc, du coup, ils ne savent pas comment gérer ça. Et Xavier Niel va leur faire rencontrer Mimi Marchand. Et il va y avoir une histoire d'affection, en quelque sorte, qui va exister entre le couple Macron et Mimi Marchand.
Mais elle est assez cash quand même, parce qu'elle appelle quand même Brigitte Macron pour lui dire « Je sais que votre mari n'est pas homosexuel ».
Oui.
C'est assez hallucinant.
Elle le dit cash, mais elle est très cash dans la façon de s'exprimer, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est absolument passionnante, cette dame, même si elle a des relents sulfureux, puisqu'elle a fait beaucoup, elle a fait de la prison, etc.
Oui, la justice, en fait, est toujours
assez trousse. Mais en attendant, c'est elle qui a contribué à construire l'image, c'est ça qui nous intéressait, d'Emmanuel Macron, à travers les couvertures de Paris Match, vous y faisiez référence, mais également à travers aussi le contrôle que le couple Macron voulait avoir sur son image, sur, par exemple, des photos qui sont prises au fort de Brégançon. Et ça nous a beaucoup intéressés parce que Mimi Marchand est restée très longtemps dans l'orbite du couple Macron.
Oui, c'est ça. Alors, pour revenir quand même un petit peu, finalement, au début, avec... alors, on va peut-être pas revenir chez Rothschild, même si vous racontez quand même, aussi. Et il le dit, en fait, très cash à son entourage, et son entourage le dit, il veut gagner de l'argent avant de se lancer, en fait, dans la politique.
Bah, oui, pour nous, c'était ces épisodes du début de la carrière de Macron sont révélateurs, notamment parce que ça déconstruit un mythe qui est que c'est un homme qui aurait saisi les opportunités un petit peu au hasard de la façon dont elle se présentait, qui n'aurait eu aucune ambition politique au départ. Simplement, on l'a mis à l'Élysée comme secrétaire général, et puis après on avait besoin de lui au ministère de l'économie, et puis après il a vu un espace dans lequel s'engouffrer. En réalité, c'est pas vraiment ça. Il confie dès le départ à Alain Minc, que à l'inspection des finances encore, que son rêve, c'est son objectif, ce sera d'être président de la République. Et effectivement, quand il est dans la banque d'affaires, très clairement, il dit, ça nous est rapporté par plusieurs témoins, il assume le fait que il faut gagner d'abord de l'argent avant de se lancer en politique. Donc tout ça était, j'allais dire, prévu, prémédité, ce qui n'est pas du tout honteux. Au contraire, ça signifie qu'il y a une cohérence dans le parcours. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt le fait que ça n'ait pas été assumé, parce qu'en termes de communication, c'est un petit peu différent de sa part. Évidemment, si lui dit depuis le départ, je voulais être président de la République, on va comprendre que tout le reste, il l'a fait sciemment, il a calculé la trahison de Hollande, etc. Alors que c'est pas le discours que veut faire passer l'Élysée aujourd'hui. L'Élysée veut faire passer le discours que finalement, il s'est retrouvé là, comme Hollande n'était pas en situation, il a été obligé de se dévouer pour la France.
Ah oui,
pas
exactement ça. À propos d'Hollande, d'ailleurs, bon, alors on va revenir sur les déclarations de Pierre Moscovici, hein, qui ont fait déjà couler un petit peu d'encre, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est une réflexion de Ségolène Royal qui dit il a observé comme Hollande, c'est-à-dire il a aucun affect, aucune reconnaissance, boum, il avance, quoi.
Oui, c'est aussi l'un des...
Parce qu'elle connaît bien François Hollande.
Elle connaît très bien François Hollande, mais elle connaît très bien aussi Emmanuel Macron. Elle l'a fréquenté au gouvernement. Et donc, du coup, c'est très intéressant parce que ça déconstruit aussi le mythe de la bienveillance. Emmanuel Macron a longtemps fonctionné aussi en faisant dire « Moi, je revendique la bienveillance en politique. » Or, on le sait tous ceux qui fréquentons un peu le monde politique, c'est que la bienveillance, ça n'existe pas en politique. Ouais. Et on en veut pour preuve que, justement, Emmanuel Macron n'avait, quand il était au gouvernement, aucune bienveillance. Il a, on le raconte longuement dans le livre, la façon dont il a essayé de tirer la couverture à lui sur bien des dossiers, et ça ne marchait pas à chaque fois, puisqu'il avait en face des obstacles, Manuel Valls, par exemple, etc. Et c'est constitutif de cette espèce de revanche qu'a voulu prendre Emmanuel Macron sur tout ce monde-là. Donc ça rejoint ce que disait Fabrice à l'instant, tout ça était prémédité et organisé, en particulier ce qu'on appelle l'assassinat de François Hollande. Ah
oui. Mais ce qui était assez hallucinant, c'est que tous ces soutiens du départ aujourd'hui se sont sentis trahis, mais c'est plutôt sur l'humain en fait, et comme Jacques Attali par exemple, qui reste encore une vraie blessure chez lui.
Alors c'est vrai que c'est pas par hasard si on a choisi ce titre. Ouais. Il y a eu un ressenti qui relève effectivement de la trahison chez beaucoup de personnes qu'on a pu côtoyer. Alors la trahison politique, j'allais dire, si elle existe, et nous on pense qu'effectivement il y a eu au moins des zigzags idéologiques qui ont déstabilisé beaucoup d'électeurs, mais ensuite si on parle des personnes qui l'ont côtoyé, évidemment cette trahison, ils vont la ressentir évidemment de manière plus personnelle. Et des trahisons humaines, oui, il y en a, ou en tout cas elles sont ressenties comme telles. Il y a des fois, vous savez, vous pouvez contrarier des personnes qui vont le vivre de manière dramatique et qui vont ressentir ça comme une trahison, et la personne qui est on va dire responsable de ça ne se sent pas dans la peau du traître. N'empêche que nous, ce qui nous a frappé, c'est le nombre de personnes qui se sentaient trahies. Et là, on peut renvoyer quasiment sur la première partie du livre, à quasiment chaque chapitre que je laisse chacun découvrir. Mais à chaque fois, effectivement, on voit que des personnes se sont senties, trahies.
Ouais. Vous dites même qu'il n'a pas d'amis.
Oui. Ouais. Jacques Attali, donc, qui est un très proche, qui a créé en quelque sorte Emmanuel Macron, comme il revendique avoir créé beaucoup de choses, et il dit Emmanuel ne renvoie jamais l'ascenseur.
Oui, c'est ça. Oui. Il y en a un qui s'en souvient, c'est Jean-Pierre Jouyet, qui est l'un des autres compteurs qu'il a oublié. Quoi.
Qui lui n'a pas souhaité nous rencontrer pour le coup, parce que ancienne. Oui. Mais en l'occurrence, oui, Jean-Pierre Jouyet, il n'y a aucune reconnaissance non plus vis-à-vis de Jean-Pierre Jouyet, même s'il a été nommé ambassadeur à Londres. Mais objectivement, il n'a plus de relation avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron à couper les ponts. Alors, en même temps, est-ce que c'est tout à fait...
Attention, vous allez faire du macronisme.
Oui, est-ce que c'est tout à fait interdit ou impensable quand on arrive à l'Élysée ? Non, François Hollande nous le disait, un président n'a pas d'amis. Ouais. Donc, c'est compréhensible. Mais c'est dans des proportions rares, y compris jusqu'à des gens qui semble-t-il, ne sont pas gênants pour lui, ce sont des intellectuels. Il s'est coupé de tous les intellectuels qui l'ont aidé à créer son corpus intellectuel.
Ouais. Et comment il a réussi sa conquête, ses talents de séduction, c'est ce qu'on va voir aussi dans un instant avec vous, donc pour ce livre, Gérard Davet, Fabrice Somme, Le Traître et le Néant, l'enquête autour d'Emmanuel Macron, et Philippe Bilger, qui, je pense, est toujours à l'écoute, qui aura une question à vous poser, et vous, vous pouvez intervenir. On est ensemble encore une petite demi-heure, 0826-300-300. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Emmanuel Macron fait vendre, en tout cas, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, Le Traître et Le Néant aux éditions Fayard. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous avez envie de leur poser des questions,
oui,
bien sûr.
Et ce qui transparaît à travers les livres et les nombreux témoignages donc, de proches et hein, des gens un petit peu plus éloignés que vous avez, toutes ces personnes que vous avez rencontrées, c'est que, je le disais avant la pause, il a un talent de séduction. C'est Gaspard Ganzer qui dit qu'il a un talent de séduction sur, je crois que c'est bien lui, hein, sur les personnes de pouvoir plus âgées que lui, qui est sans équivalent, dit-il, dans le monde, Gérard Davet.
Oui, c'est vrai. Alors, on ne l'a pas testé, hein, même si on est plus âgé qu'Emmanuel Macron, mais en vérité, cela étant, ils sont nombreux, les personnes âgées que nous avons rencontrées, âgées ouais. entre guillemets, hein, c'est-à-dire de Alain Minc à Jacques Attali, en passant par l'avocat Jean-Michel Darrois, à tous nous dire, bien sûr qu'on a été séduit par ce personnage et que quelque part, on l'est encore. Mais ils ont aussi compris qu'il fallait le craindre. Et ça, c'est une dimension qui est importante. Il y a la séduction et il y a la crainte. Et c'est ce qui apparaît dans le livre, c'est qu'il y a ces deux mamelles sur lesquelles s'appuie le macronisme aussi.
Ça veut dire qu'il est capable du meilleur comme du pire.
Ça veut dire qu'il a fait comme le disait Ségolène Royal, qu'il fonctionne comme Hollande, sans affect.
Oui, c'est ça. Au fond, il n'est proche de personne, il est proche de lui-même. Je crois que c'est aussi encore une réflexion d'Olivier Faure dans votre livre. Philippe Bilger, qui est avec nous et qui voulait vous poser en fait une question qui a lu, et c'est lui le premier qui m'avait déjà fait un résumé du livre avant que je ne le lise là, cette semaine.
Alors, oui. Ce livre m'a tout particulièrement passionné, alors que je suis un fanatique de tous les essais politiques, hein, je le dis tout net.
Ouais.
Très rapidement, Patrick, trois points. Il est passionnant de voir comme certains n'ont jamais cru à la possibilité de voir Emmanuel Macron accéder au pouvoir parce qu'ils n'imaginaient pas qu'il aurait le culot d'être un traître, comme le dit François Baroin, alors qu'il a dupé François Hollande précisément parce que celui-ci, pour la première fois, a éprouvé de l'affect pour quelqu'un. Deuxième point, j'ai trouvé le livre tout à fait remarquable parce qu'il est non seulement consacré à la relation entre Macron et d'autres, mais il permet des petites histoires, notamment passionnantes, sur les témoignages qui sont donnés. J'ai trouvé, par exemple, absolument éblouissant de lucidité ce qu'a dit François Baroin sur Macron et d'une certaine manière aussi sur lui-même. Le livre nous apprend beaucoup sur certains personnages. Et dernier point, le plus important, il me semble que le livre démontre à la fois que République En Marche n'existe pas, que le macronisme n'existe pas, et qu'au fond, il y a un projet politique inconsistant, mais une construction infiniment intelligente et narcissique d'un homme au service de lui-même, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Patrick. C'est sur ce dernier point, est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Macron sera une étoile filante, décevante pour certains, éblouissante pour d'autres, ou est-ce que sa possible réélection ne pourrait pas vous conduire à reconsidérer votre image de lui?
Fabrice Lhomme.
Alors d'abord, merci Philippe Bilger, je vois qu'il a lu et bien lu notre ouvrage et effectivement repéré des choses qui étaient importantes pour nous. Et sur le dernier point, pour l'instant, parce qu'on ne peut jamais présager l'avenir, pour l'instant, au moment où on parle, effectivement, c'est plutôt une étoile filante et en même temps brillante, Emmanuel Macron. Mais filante parce qu'on ne voit pas, et d'ailleurs je pense que lui-même n'en sait rien, on ne voit pas exactement quel est le sens de sa trajectoire. C'est quelqu'un dont on sent bien, notamment du fait de son jeune âge, qu'une fois qu'il aura été président de la République, 5 ou 10 ans, il repartira conduire ses affaires, faire sa vie, faire de l'argent sans doute. Et on ne voit pas pour l'instant l'empreinte d'une empreinte idéologique dans sa trajectoire. Donc pour le moment, il est encore dans la trajectoire de l'étoile filante. S'il est réélu l'année prochaine, et pour l'instant il est favori, mais on est encore trop loin de l'élection pour en parler, mais s'il est réélu, il y aura deux solutions. Soit il se dira, de toute façon, c'est mon second quinquennat, je n'en ferai pas d'autre et je vais tenir comme ça et j'aurai marqué l'histoire en étant en gros le premier président à être réélu en étant sortant, entre guillemets. Soit il se dira, non, il faut maintenant que je passe à vitesse supérieure, que je trouve un corpus idéologique. Mais ce sera compliqué, parce que quand vous avez dans votre équipe un Richard Ferrand comme soutien qui était à la gauche du PS et un Gérald Darmanin qui prend des positions à droite de l'extrême droite, on a du mal effectivement à imaginer quel pourrait être le corpus idéologique.
Là, il bosse à l'instinct.
Oui, c'est très important, l'intuition. Il s'en vante souvent auprès de ses proches et on peut pas lui donner tout à fait tort parce que souvent son intuition lui a réussi, elle l'a porté très haut, au sommet du pouvoir. Le problème avec les gens très intelligents qui ont beaucoup d'intuition, et avec Gérard on pense que c'est son cas, c'est qu'il y a des fois on peut penser qu'on a toujours raison. Or, même les gens très intelligents, même les gens qui ont beaucoup d'intuition, parfois se trompent. Et ça, c'est le risque avec un pouvoir comme celui-là qui est trop personnalisé. Et cette tendance un peu arrogante qui a été reprochée au macronisme, et notamment Emmanuel Macron, à penser que de toute façon, on ne se trompe jamais, donc on ne se trompera jamais. Or, si, parfois, on se trompe.
Oui, alors, quand on dit justement qu'il ne compte que finalement que sur lui-même, hein, et il ne se voit ou il ne voit la politique qu'à travers lui-même et ses intuitions et ses idées, il a quand même une garde rapprochée. Certes, elle a changé par rapport à son ascension lors de la campagne de 2016-2017, mais il a toujours des fidèles. Par exemple, vous prenez le jeune, je dis jeune parce que c'est vrai que Pierre Person...
il est très jeune.
Ouais. Il est très jeune, hein, il a 32, la trentaine, ans, voilà, ouais. C'est ça, ça fait partie de la bande de Poitiers, là, et lui, vous l'avez rencontré. Il est critique à l'égard, en fait, d'Emmanuel Macron, mais... Il croit toujours quand même en fait à Emmanuel Macron, quoi.
Oui, ils sont quelques-uns, ils sont même assez nombreux de cet âge-là à considérer que les vieux partis ont échoué. Ouais. Pierre Person est un ancien socialiste, ouais.
Stanislas Guérini, oui, vous lui consacrez aussi.
Que le dépassement prôné par Emmanuel Macron est quelque chose qui les intéresse. Sauf que pour nombre d'entre eux, le curseur est passé beaucoup trop à droite. C'est-à-dire que ils espéraient tous que ce serait effectivement un dépassement du PS, mais par le centre. Là, c'est devenu un dépassement du PS par la droite. Et c'est donc ce qui les gêne terriblement, ces gens-là. Et par ailleurs, autre chose, c'est que ces gens qui ont été formés au PS ont tous une matrice idéologique. Ils ont tous envie d'avoir des idées en politique et de s'y tenir, une cohérence, une colonne vertébrale. Or, ils ont découvert qu'avec Emmanuel Macron, il n'y avait pas de colonne vertébrale. C'est tout le problème.
Oui, mais Jacques Attali l'avait dit, et sans doute qu'il les avait mis en garde, et il le dit dans votre livre, Macron n'est pas un homme de gauche.
Non, ce n'est pas un homme de gauche, c'est pas non plus forcément un homme de droite, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est bien le problème, ce qui donne le paysage politique morcelé aujourd'hui. Et si vous voulez qu'on vous aime un président qui vous dit, avant d'être élu, moi président, il n'y aura pas de ministre mis en examen dans mon gouvernement, ouais. Et qu'on se retrouve avec Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, qui défile la justice, et Emmanuel Macron, qui encore récemment vient de dire, la justice n'a pas à s'immiscer dans la politique, on a un vrai problème de cohérence. Mmh. Et ça, les électeurs ne s'y trompent pas.
Mais ouais. Est-ce que quelque part, il a apporté quelque chose à la politique et à la fonction présidentielle ?
Alors, à la politique, oui, bien sûr. Il a apporté du sang neuf, il a apporté peut-être le côté positif de ce qu'on évoquait de manière négative précédemment, c'est-à-dire une souplesse qui lui permet d'aller sur tous les terrains sans a priori, on va dire, notamment idéologique. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui apporte un peu de fraîcheur et qui nous change, on va dire, des clivages anciens, droite, gauche, ou forcément ce que fait la droite, la gauche le critique et réciproquement. Donc ça amène quand même de la fraîcheur, et puis ne serait-ce que par sa prestance, etc. Sa pratique présidentielle, en revanche, me paraît, pour le coup, plutôt de relever de l'ancien monde. Là, il n'y a rien de nouveau, en fait, sous le soleil. C'est plutôt, d'ailleurs, il se réfère plus au général de Gaulle qu'à François Hollande. Et pour cause, puisqu'il a une pratique très, très on va dire, monarchique des institutions républicaines. Donc, il a apporté un vent de fraîcheur, c'est incontestable, mais c'est toujours pareil. Ça, on est plus, on va dire, dans le discours ou la posture. Après, sur le fond, son premier mandat, s'il y en a un second, a été paralysé un peu par le Covid, et c'est vrai qu'on a du mal en fait à mesurer l'impact réel qu'il laissera dans l'histoire de France, à part avoir été le président si jeune et n'avoir jamais été élu avant d'accéder à l'Élysée.
Oui, et puis s'il est réélu, effectivement, peut-être que là, il pourra laisser une empreinte plus forte, quoi. Vous voulez réagir, vous avez entendu Gérard Lavey et Fabrice Lhomme, le traître et le néant, encore 10 minutes ensemble, on reviendra aussi sur son côté, un peu fan, amoureux, des people, etc. Stéphane Bern, notamment, qui l'a croisé en fait un jour, il a failli l'écraser ou vice versa, je ne sais plus, en fait, à côté du Sénat. Et il y a une petite anecdote que vous racontez en fait dans ce livre. On y revient dans un instant.
À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, il est 9h29.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h32, c'est presque un livre bilan d'un quinquennat d'Emmanuel Macron. Gérard Davet, Fabrice Lhomme, Le Traître et le Néant, aux éditions Fayard. Et vos questions au 0826-300-300.
Oui, beaucoup de déçus finalement, mais ils ne crachent pas non plus totalement tous dessus, hein, comme s'ils préservaient l'avenir, non ?
Oui, ce sont les lois de la politique, hein, depuis le temps qu'on fait ça. On s'est bien rendu compte qu'en politique, la traîtrise était consubstantielle à la politique, mais que, oui. aussi à un moment donné, il fallait préserver ses chances pour l'avenir. Donc du coup, c'est là où c'est compliqué de faire parler les gens, en fait. Vous les voyez,
oui,
vous aussi, vous croyez dans le micro. C'est compliqué de leur faire dire exactement ce qu'ils pensent.
Oui. Par ailleurs, c'est un président qui est craint, il est redouté. On ne pouvait pas en dire autant de François Hollande, qu'on a bien observé, et sur lequel on a bien enquêté, et sa présidence, où tout le monde se sentait autorisé, on va dire, y compris dans son propre camp, à lui balancer un scud dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Avec Macron, c'est très différent. Là, on retrouve plutôt une empreinte sarkozyste. C'est pas la seule, on révèle plusieurs épisodes dans notre livre qui mettent en lien des connexions, pas seulement, j'allais dire, intellectuelles, mais des réseaux, des intérêts communs. Et cette conception du pouvoir assez forte et d'un homme qui fait un peu peur, ou en tout cas qui dissuade ses troupes de se lâcher contre lui, en tous les cas, on retrouve ça chez Macron.
Et d'ailleurs, je rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent éventuellement, vous ne l'avez pas rencontré, vous n'avez pas voulu en fait le rencontrer, c'était pas l'objectif, vous vouliez pas faire le même livre qu'avec François Hollande, vous n'avez pas eu l'entourage très très proche à l'Élysée.
Des consignes ont été distribuées.
Oui, voilà. Et il y a eu des consignes quand même, de ne pas vous parler non plus à certains.
Des consignes ont été, hein. Oui, clairement, des consignes ont été données au premier cercle, c'est-à-dire vraiment l'entourage très très proche qui a contribué à son ascension, qui était à son mariage, en tout cas, etc. Ces gens-là ont reçu pour consigne de ne pas nous rencontrer, de ne pas s'exprimer. D'autres n'ont pas reçu de consigne, mais ont pris une distance salvatrice selon eux. Par exemple, Gérard Collomb, qui connaît très très bien Macron, nous a envoyé un SMS très sympathique et assez drôle en lui disant « J'adorerais vous rencontrer, j'aime beaucoup vos livres, mais si je vous rencontre, je vous en dirai trop. » Donc voilà, il a préféré pas nous
rencontrer. François Bayrou, également, que vous évoquez.
Il a accepté de nous rencontrer, lui, longuement. Et du coup, c'est très intéressant parce que du coup, il nous raconte, il nous dit clairement comment La République En Marche a voulu acheter des députés que La République En Marche ne leur avait pas donné. C'est un épisode qui a fait scandale récemment et une des nombreuses révélations du livre.
On parle toujours d'Emmanuel Macron dans ses verbes, avec ses mots un peu compliqués qu'il balance à tout va. Est-ce qu'il est vraiment l'intellectuel qu'on pense être de lui?
Alors, on consacre un ou deux chapitres sur cette thématique, son rapport à l'histoire, son rapport aux philosophes, etc. Et c'est vrai que là encore, on a l'impression qu'il y a un décalage entre l'image qu'il entend renvoyer, qui est celle d'un président philosophe, pour résumer, et la réalité. Les grands témoins qu'on a pu rencontrer, y compris des philosophes, des professeurs, des historiens, etc., disent qu'il c'est un homme intelligent, personne ne va le contester, mais ce n'est pas un intellectuel. Sa culture, est un petit peu superficielle, entre guillemets, par rapport à ce que serait celle d'un véritable intellectuel.
Et qu'elle est datée, peut-être, aussi.
Qu'elle est datée, que sa connaissance de l'histoire est un petit peu spectaculaire, d'où les liens avec Stéphane Bern. C'est une histoire un peu simplifiée, en plus avec des peut-être une fascination pour la monarchie qui interroge quand même, vu notre système qui est quasi monarchique. Donc voilà, je pense que parfois la vérité n'est ni noire ni blanche. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'inculte, loin de là.
Mais c'est pas un intellectuel. En géopolitique, ce que vous racontez aussi lors du concours, il ne connaissait pas la réponse sur la géopolitique.
Sur l'influence turque, mais objectivement...
Mais en revanche, il s'en sort bien, quoi.
Oui, parce qu'il
a des talents de communication.
C'est un incroyable renverseur de situation. Il ferait du judo, il pourrait combattre contre les poids lourds. Il arrive parfaitement à saisir la force de l'autre pour renverser la situation. Ouais. Ça, c'est un talent.
Et ce qui l'a quand même aussi désarmé un petit peu pendant son quinquennat, c'est l'incompréhension face aux gilets jaunes. Il était un petit peu perdu. Et là, il a consulté. Et là, vous racontez avec l'ensemble en fait des personnes qu'il a vues, Alain Juppé, Tapie notamment aussi. Et puis
et Sarkozy.
Et Sarkozy, quoi.
Oui, les gilets jaunes. Parce que c'est un président, un de nos interlocuteurs dit que c'est un président confiné, c'est-à-dire qu'il a grandi dans un certain milieu conformiste, etc. Et donc du coup, il ne connaît pas vraiment la France. Ils nous le disent tous, il ne connaît pas les Français ni la France. Ce qui explique que les gilets jaunes, il ne les a pas vus arriver, il n'a pas compris le problème. Et après, et c'est là qu'on voit le suprême talent politique, il renverse la situation en faisant les grands débats nationaux, etc. Et là, il est brillant, c'est un excellent orateur, et en tout cas un excellent remueur de salle, chauffeur de salle. Donc du coup, quelque part, il arrive à se retrouver en situation de reprendre le dessus. Mais ça n'empêche pas qu'il se met systématiquement dans la panade parce qu'il ne comprend pas les préoccupations des Français. En tout cas, jusqu'à présent...
Est-ce qu'il les aime ?
Là, pour le coup, il faudrait lui poser la question parce qu'on n'est pas rentré dans son cerveau jusqu'à ce niveau-là.
Difficile d'aimer ou de détester, d'ailleurs, des gens qu'on ne connaît pas, en réalité. C'est un peu son problème. On a l'impression que pour parvenir au pouvoir, il s'est aperçu qu'il pouvait faire en passant au-dessus des habitudes. On commence à la base, on se fait élire, etc. Conseiller municipal, conseiller régional, etc. Et c'est vrai que politiquement, il a réussi à sauter toutes ces étapes. Mais là où ça ne peut ne pas être un problème pour être élu, ça devient un problème pour gouverner. Parce que du coup, il n'a pas eu cette connaissance du terrain, de la France d'en bas, comme on dit parfois péjorativement, enfin de la France tout court, et que ça lui manque pour gouverner. Et ça explique notamment la crise des gilets jaunes.
Alors je le disais, il a un côté fan, évidemment, fan des gens vus à la télé, etc. Il y a cette anecdote où, donc, que vous racontez dans le livre avec Stéphane Bern, où Stéphane Bern a failli l'écraser à la sortie en fait, du Sénat, et Macron il n'est pas président de la République, hein, à l'époque il est donc à l'Élysée, et Macron lui demande son numéro de téléphone.
Il lui demande son numéro de téléphone parce qu'il lui dit ma femme est fan de vous. Ouais. Et donc du coup, c'est comme ça que Stéphane Bern va rentrer dans l'entourage proche d'Emmanuel Macron, jusqu'à organiser, alors Bern nous l'a raconté, jusqu'à organiser carrément des rencontres avec Alexis Tsipras en pleine crise grecque, pour faciliter les choses, et Macron il voit un intérêt, lui aussi, c'est de se propulser politiquement. Donc c'est assez fascinant, c'est justement cette fascination qu'a le couple Macron, parce qu'ils sont deux en l'occurrence. C'est Stéphane Bern qui nous raconte par exemple que dans les dîners à Bercy, ils se comportent comme des gens royaux. C'est-à-dire que Brigitte Macron, quand elle voit dans un dîner à Bercy quelqu'un qui n'est pas très à l'aise, elle va lui demander « Mais alors, que faites-vous dans la vie? Où en êtes-vous » C'est pas uniquement de la politesse, c'est juste pour inclure quelqu'un dans un cercle qui sera destiné à les propulser. Donc c'est tout à fait intéressant.
Oui, un peu bouffon du roi aussi, quelque part, Stéphane Bern.
Sans être péjoratif.
Non, mais sans être péjoratif. Mais par exemple, les surnoms des ministres, alors ça m'avait un peu échappé, j'ai lu en fait dans le livre, Amélie de Montmachin, Elisabeth Borné, et ça amuse Emmanuel Macron.
Hein. Bah, totalement, ça c'est le côté transgressif de Macron. Il aime bien qu'on le divertisse, il aime bien rigoler. Nous, ce qu'on nous a beaucoup rapporté, c'est qu'il a en public, il a un langage très châtié, il ne se lâche jamais, etc. En privé, il jure comme un charretier, il fait des blagues un peu salaces, etc. Donc les deux sont possibles, il n'y a pas de souci. Il y a un décalage entre la personne publique et ce qu'il est en privé.
Oui, c'était le premier pour aller chanter des karaokés quand il était étudiant à l'ENA, je crois aussi, à Strasbourg.
À l'Académie de la Bière, il connaît absolument par cœur.
Oui. Dernière question de Philippe Bilger, c'est ça, Philippe qui voulait poser, qui est resté en fait.
Avec plaisir.
Oui.
Au fond, votre livre permet aussi de réfléchir sur le fameux « en même temps » qu'a évoqué Patrick Roger. On peut penser qu'à titre individuel, le « en même temps » est le signe d'une intelligence qui parfois se contredit, mais je suis frappé de voir chez lui, et j'aimerais votre avis là-dessus, à quel point, lorsqu'il va en Algérie et qu'il dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, dans le mouvement où il dit ça, il ne songe pas non plus à nuancer son propos. Mais dès le lendemain, il dit le contraire. Est-ce qu'à votre avis, malheureusement sur ce plan, il ne connaît pas ce qu'est le « en même temps » et est-ce qu'il n'y a pas derrière ces variations plutôt une forme de cynisme qui vise à embrasser toute la réalité pour ne pas perdre le moindre électeur, ou est-ce qu'il y a de l'honnêteté intellectuelle dans ces fluctuations et ces variations ?
Eh bien, c'est une très bonne interrogation. Elle est au cœur de notre livre et notamment sa seconde partie. C'est-à-dire que moi, j'espère qu'il y a de l'honnêteté intellectuelle, mais encore une fois, on n'est pas dans son cerveau. En revanche, sur le cynisme ou l'opportunisme ou la démagogie, ça nous paraît ressortir totalement de l'enquête. Et il y a tellement d'exemples sur ce point. On parlait de l'Algérie où effectivement, on dénonce la colonisation et ensuite on dénonce le pouvoir algérien. Ça n'a pas beaucoup de sens. Sur les djihadistes, quelques années après les attentats, il tient des propos en disant que la France doit se remettre en cause, que le terreau a été fabriqué par la société française, et ensuite, quelques années plus tard, il déclare la guerre aux séparatistes islamistes. Et des exemples comme ça, ils sont légions. Donc c'est vrai qu'à un moment, en même temps, ça, c'est surtout tout et son contraire. Et c'est compliqué de mener une politique à long terme en prenant le tout et son contraire.
Merci en tout cas, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, Le Traître et le Néant, Macron, l'enquête, c'est aux éditions Fayard, plus de 600 pages, donc vous avez besoin, mais il y a des vacances qui arrivent, donc évidemment, et c'est très bien pour les soirées. En plus, vous pouvez...
Par chapitre, vous pouvez, vous choisissez.
Vous pouvez, voilà, c'est ça, vous pouvez piocher, en fait, aller sur des personnages, sur des rencontres, ça c'est particulièrement intéressant, c'est ce que j'ai fait.
Et on est à 11 réimpressions, plus de 100 000 exemplaires en vente, grâce à Fayard, donc ça veut dire que les lecteurs comprennent les interrogations auxquelles on a essayé de répondre.
Et oui. Encore, que, vous n'aviez pas fait Sud Radio, vous allez voir.
Oui, ça va tout changer.
Est-ce que vous pensez, dernière question peut-être, que votre livre peut avoir une influence sur la présidentielle, comme elle l'a eu au moment du choix pour François Hollande ?
On ne sait jamais ça, et d'ailleurs on ne le fait jamais dans ce but-là. Ce qui est certain, c'est les retours qu'on a, qui nous paraissent instructifs, c'est que ce livre passionne en Macronie. Et ça, on ne s'y attendait pas forcément. On a eu des retours de macronistes de premier plan, qui se retrouvent finalement, et ils le regrettent, qui se retrouvent dans notre enquête.
Et c'est un livre contre le pouvoir.
C'est un livre contre-pouvoir.
Bon, d'accord.
Merci.
Okay.
Merci à vous, donc aux éditions Fayard. Dans un instant, Cécile, la France à vos côtés.
Eh ben, on va parler de l'entrepreneuriat féminin, ce qui est une bonne chose. Et puis, aujourd'hui 2020, 40% des femmes s'engagent dans les entreprises. Donc, ça monte. On est content. On en parle dans un instant.
Avant de retrouver Valérie Expert, ensuite Dédé Bercoff sur le pont avec Francis Cabrel. Ouais. Francis Cabrel qui a interpellé Bercoff cet été, en fait, du côté de Carcassonne. C'est comme ça que s'est passé. Qui a dit, je vous adore, je vous écoute, je voudrais venir chez vous dans l'émission.
Chantez-le, ah ben voilà, bah chantez-le pour voir.
Non.
Ok,
non.
Tant pis. Il fait beau. Allez, à tout de suite.